Professeur Bouvenot, bonjour.
Bonjour Monsieur Poli.
Professeur Bouvenot, aujourd'hui nous allons parler de spondylarthrite.
Spondylarthrite, c'est-à-dire en fait toutes les spondylarthropathies inflammatoires, nous allons nous expliquer là-dessus.
Alors pour commencer, professeur, quelles sont les grandes différences entre la spondylarthrite et une polyarthrite rhumatoïde ?
Alors les différences sont très notables et il est très rare qu'il y ait confusion. La spondylarthrite, c'est l'autre rhumatisme inflammatoire qui touche essentiellement la colonne vertébrale, le bassin, c'est-à-dire les articulations sacro-iliaques en particulier, et d'une manière générale qui donne des inflammations, et cela produit des ossifications, de ce que l'on appelle les entèses, c'est-à-dire les structures par lesquelles les tendons et les ligaments s'insèrent sur l'os. Alors, bien entendu, il existe différentes formes de spondylarthrite. Il y a des formes qui sont purement axiales parce qu'elles ne touchent que la colonne vertébrale et les sacro-iliaques. C'est douloureux et c'est enraidissant. Et puis il y a des formes qui sont dites périphériques, au cours desquelles la spondylarthrite, comme la polyarthrite, peut toucher une articulation portante d'un membre inférieur. Et puis bien sûr, il y a des formes mixtes, où on a à la fois l'atteinte axiale et l'atteinte périphérique. Tout à l'heure, on a dit spondylarthrite ou spondylarthropathie inflammatoire. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, la spondylarthrite est une forme des spondylarthropathies. Et ces spondylarthropathies, on les rencontre assez souvent associées à des maladies caractérisées que nous connaissons bien. L'une de ces maladies, c'est le psoriasis. Il y a donc des spondylarthrites psoriasiques. Une autre forme, c'est celle qui succède à une infection latente, on appelle ça une arthrite réactive, c'est la continuité de ce que l'on appelait jadis le syndrome de Fissinger, le roi Reiter. Une autre encore forme de spondylarthrite, c'est celle qui est associée aux grandes maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Voilà comment les choses se présentent, et pour être, on n'est jamais complet, Mais quand même, pour préciser les choses, cette maladie survient plus souvent chez les personnes qui ont l'antigène HLA-B27 que celles qui ne l'ont pas. Mais il faut se garder de penser que lorsqu'un patient est porteur de l'antigène HLA-B27 et qu'il a un rhumatisme inflammatoire, c'est nécessairement une spondylarthrite.
Alors professeur, j'ai le souvenir dans le passé de voir des vieilles personnes avec une attitude très voûtée et très très pénible dans leur marche et dans leur position. Qu'en est-il en ce moment ? Qu'en est-il de nos jours ?
On ne devrait, je l'espère en tout cas, plus voir ce genre de patient, c'est-à-dire plus voir une telle évolution irrémédiable. Et d'ailleurs, il y a encore 20 ans, cette maladie s'appelait la spondylarthrite ankylosante. Entre autres, parce qu'elle avait plusieurs noms. Pourquoi ? Eh bien parce que, de la même manière que pour traiter une polyarthrite rhumatoïde, nous traitons les spondylarthrites avec des médicaments qui sont plus efficaces que par le passé. Bien entendu, là encore, le traitement de la spondylarthrite ne peut pas se résumer à des médicaments. Et lutter contre l'enraidissement, lutter contre de mauvaises positions articulaires est essentiel. Et donc il y a tout un travail de kinésithérapie, de réadaptation, d'ergothérapie et d'orthèse. Mais pour en revenir aux médicaments, comment traite-t-on une spondylarthrite à notre époque ? D'abord, on lui donne, parce que c'est plus efficace encore que dans la polyarthrite rhumatoïde, on lui donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'objectif va être de s'en passer un jour ou l'autre si on doit donner une biothérapie. Mais on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et d'ailleurs, à ce propos, il est intéressant de noter que la corticothérapie, qui est efficace dans la polyarthrite rhumatoïde, l'est très peu ou mal dans la spondylarthrite. Et puis, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, on donne des traitements de fond. Et là aussi, il y a une distinction à faire entre les deux grands rhumatismes inflammatoires. Dans la polyarthrite, le méthotrexate est le traitement de fond de choix. Dans la spondylarthrite, ça n'est pas le traitement de choix. Il est efficace dans les formes périphériques, mais il l'est pratiquement pas dans les formes axiales. Et on donne de la salazopyrine. Bien entendu, quand une articulation périphérique est touchée, on peut faire une infiltration locale. Mais ce qui, comme dans la polyarthrite, a transformé le pronostic dans la spondylarthrite, c'est l'utilisation des biothérapies. Et on dispose dans la spondylarthrite des trois mêmes biothérapies que dans la polyarthrite, c'est-à-dire l'infliximab, l'étanercept et l'adalimumab. L'objectif, c'est d'obtenir une sédation des phénomènes inflammatoires, c'est d'obtenir que nos patients puissent se passer d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dont on connaît la dangerosité au long cours, pas seulement pour la muqueuse digestive, mais pour le système cardiovasculaire. Il y a une rétention hydrosodée avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et il y a des lésions rénales chroniques qui s'installent. Donc on a tout intérêt à en donner le moins possible et le moins longtemps possible. En sachant que ces biothérapies sont en même temps un traitement efficace de certaines maladies associées, puisque certains psoriasis graves sont répondeurs à ces biothérapies. La maladie de Crohn aussi. Et donc on peut dire que lorsque l'on traite par biothérapie un patient atteint d'une spondylarthrite et d'une maladie de Crohn, on fait coup double. Et même chose si la gravité de la dermatose associée à une spondylarthrite, la gravité du psoriasis, justifie un tel traitement. Alors, ce sont les mêmes précautions d'usage, aussi bien pour l'instauration du traitement que pour sa surveillance, que dans le cas de la polyarthrite. En fait, la réflexion qu'on peut se faire et que l'on doit se faire à propos des nouveaux traitements de ces deux grands rhumatismes inflammatoires, je rappelle que si on pense qu'il y a à peu près 150 000 patients qui ont une polyarthrite en France, il y en a un peu moins qui ont une spondylarthrite, ça doit être de l'ordre de 100 000, 120 000 maximum. On doit se demander pendant combien de temps il faudra traiter nos patients. Les traitements que nous utilisons sont des traitements qui sont en fait purement suspensifs. Bien sûr, on peut observer une certaine rémanence de l'effet à l'arrêt du traitement, mais nous ne sommes pas sûrs que cette rémanence de l'effet soit durable. Et donc le problème que nous avons à l'heure actuelle n'est pas tant le problème de traiter nos patients pour que leur qualité de vie soit la meilleure possible et que finalement leur maladie n'ait pas trop de répercussions ni sur la vie de tous les jours, ni sur l'activité professionnelle. La question est de savoir combien de temps il faudra les traiter, quels sont éventuellement les effets indésirables à long terme que l'on ne connaît pas encore. Autrement dit, il nous faut du recul. Mais nous n'allons pas nous plaindre, nous avons des traitements beaucoup plus efficaces que par le passé.
Professeur Bouvenot, je vous remercie beaucoup.
Merci, monsieur Poli.